Salut, c'est Mélanie. Dans la conduite du changement, il y a une personne qui est considérée comme une figure d'autorité sur le leadership du changement. Il s'appelle John Paul Kotter, professeur à la Harvard Business School. Et aujourd'hui, je vous propose de vous présenter une méthode en 8 points clés très utile pour soit transformer une entreprise, soit apporter des changements ponctuels et ciblés. L'idée que John Paul Kotter expose est une approche globale de l'organisation et de la problématique, plutôt que de travailler de manière isolée ou fragmentée. J'ai eu l'opportunité de suivre une formation sur ce sujet, et même si l'ensemble des étapes ou éléments ne sont pas immédiatement applicables selon le contexte de l'entreprise, ce sont de très bonnes pistes de réflexion. Voyons donc ensemble les 8 points clés de la méthode de John Kotter. Tout d'abord, créer le sentiment d'urgence. Cette première étape agit comme un déclencheur. Vous devez trouver les arguments pour créer un sentiment d'urgence, voire dramatiser la situation pour donner de l'impact aux besoins de changement. Mais les paroles ne suffisent pas. N'hésitez pas à vous appuyer sur des preuves tangibles, des chiffres, des menaces réelles de la concurrence ou encore des réclamations clients. Pour valider que vous vous trouvez dans une situation qui mérite de créer un sentiment d'urgence, je vous propose quelques exemples qui doivent vous interpeller et pour lesquels un changement ciblé est nécessaire. On a par exemple la position des concurrents directs qui se renforcent, les réclamations clients croissantes, les coûts de développement et ou d'exploitation qui sont en hausse constante, une difficulté croissante pour retenir les talents, ou encore les initiatives stratégiques qui ne réussissent pas à endiguer les tendances évoquées précédemment. En point numéro 2, il faut former une coalition directrice. Quand des changements doivent s'opérer dans une entreprise, le pouvoir hiérarchique seul montre rapidement ses limites pour transformer une organisation. Vous devez alors identifier et intégrer dans l'équipe projet les acteurs qui ont un véritable pouvoir d'influence au sein de votre société. Cette coalition permet d'établir un véritable leadership pour entraîner vos collaborateurs vers de nouvelles pratiques. Comment constituer cette équipe? En allant chercher dans vos équipes les talents qui peuvent prendre un rôle de visionnaire, de coach, une personne avec un pouvoir directif, un facilitateur, un démocratique pour rallier la majorité, et un performeur pour encourager l'équipe à relever les défis. Ces 6 rôles peuvent être pris par 6 personnes, ou moins selon les compétences disponibles. Vous pouvez aussi vous appuyer sur des éléments formant une légitimité aux yeux de ceux qui sont impactés par le changement, comme une expertise pointue, une capacité particulière de communication ou encore une ancienneté dans l'entreprise. Le troisième point clé sera de créer une vision de l'état futur. Le changement génère de l'incertitude. Pour la réduire, explicitez le futur en y intégrant des éléments tangibles, des valeurs apportées, la stratégie suivie. C'est donc apporter une vision, une représentation séduisante de l'avenir. Elle doit plaire à la plupart des groupes d'intérêt de l'entreprise, comme les clients, les actionnaires, les salariés. Mais la vision n'est pas seulement un texte. C'est aussi un processus par lequel l'entreprise va aligner les représentations que les individus se font de leur poste et de leur entreprise. Pour qu'une vision de transformation soit efficace, elle doit avoir les caractéristiques suivantes. Être assez ambitieuse pour sortir les individus de leur routine, tirer parti de nouvelles pratiques ou technologies, et être éthique, c'est-à-dire qu'elle ne favorise pas un groupe d'intérêts par rapport aux autres. Point numéro 4, communiquer la vision. Vous avez maintenant en main une description précise de ce que sera le futur. La communication de la vision ne se limite pas à une présentation formelle à l'ensemble des personnes concernées, mais doit s'inscrire dans le quotidien à chaque occasion. Une communication dynamique orientée vers l'action en rappelant la situation d'urgence de changer. La vision doit être expliquée et réexpliquée. Elle doit rester simple, en éliminant les termes techniques ou les termes qui donnent du style, comme les anglicismes par exemple. Elle doit contenir des métaphores, des analogies et des exemples pour renforcer le processus d'alignement des représentations. Et pour que la vision soit plus facilement assimilée, il faut également rompre avec la communication en cascade. Réunions plénières, journaux internes, affiches, conversations informelles sont autant de communications directes qui permettront d'augmenter la quantité d'informations retenues. Il est important aussi de tout repeindre aux couleurs de la vision, c'est-à-dire rattacher toute action ou toute décision à la vision. Également, mettre les paroles en acte. La coalition directrice doit réaliser les premières actions du changement afin de montrer l'exemple. Il faudra aussi penser à remédier aux contradictions apparentes, en les identifiant, en les anticipant et en communiquant sur ces contradictions. Et enfin, communiquer la vision, c'est aussi écouter et demander aux personnes à qui vous avez transmis la vision de restituer leur compréhension pour relever leurs doutes et leurs craintes et transformer le rôle de spectateur en acteur. Élément numéro 5, inciter à l'action et abaisser les obstacles. Impliquez vos collaborateurs dans l'action. En cas d'incohérence avec les buts fixés, aidez-les à corriger le tir. Sans cela, pas de mutation profonde et ils peuvent se sentir totalement impuissants à cause de la bureaucratie ou des freins organisationnels, du manque de compétences ou des croyances et représentations limitantes, de la politique des ressources humaines incompatibles avec la nouvelle vision ou encore de l'insuffisance d'autonomie. Pour responsabiliser les salariés, il sera nécessaire d'amener une dynamique d'apprentissage qui passe par la formation, l'utilisation, l'expérimentation et l'amélioration. En point numéro 6, il s'agira de générer des victoires à court terme. Ne pas attendre le terme du projet pour crier victoire. Des jalons rapprochés permettent de maintenir l'implication et le dynamisme de tous. Il convient donc de fixer des objectifs intermédiaires pour éviter le découragement et l'essoufflement. Lorsque les premiers résultats sont visibles, fêtez-les. Et les bénéfices de victoires rapides sont nombreux. Ils apportent à la coalition directrice des données concrètes sur la viabilité de la vision, ils fragilisent les opposants et ils sont des opportunités pour changer les résistants en partisans. Point numéro 7, consolider les succès pour plus de changements. Un succès ne donne pas la victoire, d'autant lorsqu'une mise en œuvre réussie ne concerne qu'une partie de l'entreprise. Généraliser une solution à l'ensemble d'un tout peut révéler de nouveaux obstacles au changement. N'hésitez pas à vous appuyer sur l'amélioration continue, avec le modèle de la roue de Deming par exemple, pour maîtriser le déploiement d'une nouvelle organisation. Sans ancrage dans la culture, des régressions au changement peuvent apparaître. C'est d'ailleurs le huitième et dernier point, ancrer les nouvelles approches dans la culture d'entreprise. Le changement étant un état transitoire pour arriver à de nouvelles pratiques, l'étape ultime est d'intégrer l'état final projeté, devenu réalité, dans la culture. C'est aussi concrètement mettre à jour l'ensemble des documents opérationnels, les process et procédures. Merci d'avoir écouté ce podcast. L'ensemble des épisodes est disponible sur mon site l'équationduchangement.com ainsi que sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter de mon hébergeur Ocha pour ne rater aucun prochain épisode. C'était Mélanie de l'Équation du Changement. Voyons donc ensemble les 8 étapes. Non mais, ça y est. Dimanche matin, 9h39, ok Mélanie, c'est les 8 étapes, on y retourne.